Conte de la Alhambra. Adieu de l'auteur à Grenade. Mon heureux et paisible règne à l'Alhambra fut brusquement interrompu par des lettres qui m'arrivèrent alors que je me livrais à la voluptuosité orientale dans la fraîche salle des bains, et qui me sommait de quitter mon Élysée musulman pour me mêler à nouveau au remue-ménage et aux affaires de ce triste monde. Dans quel état d'esprit allais-je retrouver ces labeurs et ces tourments, après une telle vie de repos et de rêverie? Comment allais-je supporter sa vulgarité après la poésie de l'Alhambra? Peu de préparatifs furent nécessaires à mon départ. Un véhicule à deux roues, qu'on appelle tartana, et qui ressemble à un char couvert, devait être notre moyen de locomotion, à un jeune Anglais et à moi-même, à travers Murcie, Alicante et Valence, pour notre voyage vers la France. Et un sacripant à longues jambes, qui avait été contrabandista, pour autant que je sache, voleur, allait être notre guide et garde du corps. Les préparatifs furent au fait, mais le départ se compliqua. Jour après jour, il fut reporté pendant plusieurs jours, et, pendant ce temps, j'errai dans mes lieux de prédilection qui m'apparurent à chaque fois plus merveilleux. Même le petit monde social et domestique au sein duquel j'avais vécu, m'était devenu singulièrement cher. Et la préoccupation qu'ils montrèrent au sujet de mon départ annoncé me convainquit que mes sentiments affectueux étaient réciproques. En effet, quand finalement le jour du départ arriva, je n'osais pas m'aventurer à faire mes adieux à la bonne Donia Antonia et aux siens. Je vis bien que le doux cœur de la petite Dolores, au moins, était gros et prêt à déborder. J'adressai donc un adieu silencieux au palais et à ses habitants, et descendis vers la ville comme si j'allais en revenir. Là, cependant, la tartana et le guide étaient prêts. Ainsi, après avoir déjeuné à la posada avec mon compagnon de voyage, nous nous mîmes en route. Bien humble était l'escorte et bien mélancolique le départ du roi Chico le deuxième. Manuel, le neveu de Tia Antonia, Matteo, mon officieux, mais maintenant inconsolable écuyer, et deux ou trois vieux invalides de l'Alhambra, avec lesquels j'avais eu d'amicaux bavardages, étaient descendus pour me voir partir. Car c'est une de ces bonnes vieilles coutumes en Espagne que d'aller à la rencontre pendant plusieurs miles d'un ami qui arrive et de l'accompagner aussi loin lorsqu'il repart. Ainsi donc nous partîmes, notre garde à longues jambes marchant à grands pas devant, son escopeta à l'épaule, Manuel et Matteo de chaque côté et les vieux invalides derrière. À une certaine distance au nord de Grenade, la route commence à escalader les collines. Là, je descendis et fis quelques pas avec Manuel, qui saisit l'occasion pour me confier le secret de son cœur et les tendres sentiments entre lui et Dolores, au sujet desquels j'avais déjà été informé par le toujours bien renseigné et toujours bavard Matteo Jiménez. Son diplôme de docteur avait été le premier pas vers leur union, et, s'il pouvait obtenir le poste de médico de la forteresse, son bonheur serait complet. Je le félicitai sur le jugement et le bon goût dont il faisait preuve dans le choix de sa compagne, et souhaitai à leur union tout le bonheur possible. Bien triste, en effet, fut mon départ lorsque je quittai ces braves gens, et les vit descendre lentement les collines, se retournant de temps en temps pour m'adresser un dernier adieu de la main. Manuel, il est vrai, avait de joyeuses perspectives pour se consoler. Mais le pauvre Matteo semblait complètement abattu. C'était pour lui une douloureuse chute que de revenir, après avoir été premier ministre et historiographe, à son manteau marron et à son office famélique de tisserand. Et le pauvre diable, malgré son occasionnel excès d'empressement, avait toutefois, d'une façon ou d'une autre, acquis une plus grande place dans ma sympathie que je ne l'aurais cru. Ç'aurait été vraiment une consolation à mon départ si j'avais pu lui annoncer la bonne fortune à laquelle il était destiné et à laquelle j'avais contribué. L'importance que l'on m'avait vue attacher à ses histoires, ses bavardages et à ses connaissances locales, et la fréquente camaraderie avec laquelle je l'avais traité pendant mes promenades, lui avaient fait croire en ses propres mérites et lui avaient ouvert une nouvelle carrière. Ainsi, le fils de l'Alhambra était-il devenu depuis son cicerone habituel et était-il bien payé? Au point que, d'après ce que j'en ai entendu dire, jamais il ne fut obligé de revenir à son vieux manteau marron dans lequel je l'avais connu. À la tombée du soir, j'arrivai à l'endroit où la route serpente entre les montagnes et je fis un arrêt pour regarder Grenade une dernière fois. La colline sur laquelle je me trouvais offrait une magnifique vue sur la ville, la Vega et les montagnes tout autour, et se trouvait dans la direction opposée à la Cuesta de las Lagrimas, la colline des larmes, connue comme le dernier regard du mort. Je pouvais maintenant comprendre les sentiments du pauvre Boabdil lorsqu'il lança son dernier adieu au paradis qu'il quittait, ayant devant lui une route aride et rude qui le conduisait en exil. Comme toujours, le soleil couchant projeta une clarté mélancolique sur les tours rougeoyantes de l'Alhambra. À peine pouvais-je distinguer la fenêtre à balcon de la tour de Comares, où j'avais été plongé dans tant de délicieuses rêveries. Les nombreux bosquets et jardins autour de la ville étaient richement dorés par les rayons du soleil. La brume pourpre d'un soir d'été s'amoncelait autour de la Vega. Tout était charmant, mais aussi tendre et triste à mon regard d'adieu. Je m'éloignerai de ce paysage, pensais-je, avant que le soleil ne se couche. J'emporterai son souvenir revêtu de toute sa beauté. Plein de ces pensées, je poursuivis mon chemin à travers les montagnes. Un peu plus loin, Grenade, la Vega et l'Alhambra disparurent à mes yeux. Et ainsi s'acheva un des plus délicieux rêves d'une vie que le lecteur jugera peut-être un peu trop faite de rêves. Thank you.